voilà, et c'est parti pour Tempête sur les planches sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et puis allez sur le site radio-libertaire.org pour tout savoir sur les émissions qui vous attendent sur cette antenne la plus rebelle des radios. Alors, c'est Thomas Dambourg pour Tempête sur les planches, et aujourd'hui on va faire une petite excursion à la fois en RDC, donc en République démocratique du Congo, et à Lausanne, c'est-à-dire dans l'exploration, dans la tradition congolaise et en même temps dans le crump. Alors, c'est donc Thomas Dambourg, et aujourd'hui, pour vous partager une récente expédition que j'ai faite. C'était pas très loin, c'était à Lausanne, c'était pas au Congo, mais j'ai rencontré Faustin Ligné-Koula, le chorégraphe, qui lui vient de Kisangani, au Congo, qui est aujourd'hui un chorégraphe très important du paysage artistique, qui travaille beaucoup sur l'histoire coloniale de son pays, de la RDC, et qui cherche dans tous ses spectacles un peu la position de son pays dans le monde d'aujourd'hui. Il a fait des spectacles qui mélangent la danse, le reportage, le documentaire, le théâtre et autre chose. Et bien sûr, la musique aussi. Et il présente ses spectacles sur des festivals, comme il en a fait aussi, par exemple, au Panthéon. Il va maintenant arriver à Chaillot, là, au Théâtre National de la Danse. Et il a créé à Kisangani, sur les rives du fleuve Lualaba, qui est en fait le fleuve Congo. Il a créé les studios Kabako, qui sont devenus au fil des décennies une adresse très importante sur la carte mondiale de la danse. Et ça se passe là-bas. Maintenant, il est venu à Lausanne. Il partage son temps entre l'Europe et son pays. Et moi, je l'ai rencontré à Lausanne pour la création, la première d'un spectacle qui est en fait un portrait d'une danseuse qui vit à Lausanne. Elle s'appelle Mamouchi, de son nom d'artiste. Et elle est crumpeuse et leur rencontre, elle s'appelle Amandine Ngindou, de son nom civil. Et alors la rencontre entre les deux s'est faite grâce au directeur du théâtre Vidi à Lausanne. Il s'appelle Vincent Baudrier. Il a co-dirigé avec Hortense Archambault pendant très longtemps le Festival d'Avignon. Baudrier dirige aujourd'hui le théâtre Vidi à Lausanne. Et je ne sais pas si vous vous souvenez peut-être, mais après Baudrier, qui est devenu directeur du Festival d'Avignon, c'était Olivier Py qui a pris la relève, voilà. Et aujourd'hui, il a terminé sa mission aussi à Avignon, voilà. Donc, en fait, les deux. Alors, d'une part, Faustin Ligné-Koula. De l'autre part, Amandine Ngindou, aka Mamouchi, vient de deux régions très différentes du Congo. Elle vient de la région du Kasaï, qui est à 1000 km de celle de Ligné-Koula. Et 1000 km au Congo, c'est bien autre chose que 1000 km ici. Donc, Faustin ne connaissait pas du tout cette région. Il a rencontré Mamouchi à Lausanne parce qu'il vit là-bas depuis son enfance. Et c'est le directeur du théâtre Vidi, c'est Baudrier, qui lui a dit: tiens, Vincent, voilà, on a ici une crumpeuse qui vient de ton pays, tu pourrais la rencontrer. Et finalement, les deux ont fait un voyage partagé ensemble en RDC. Donc, un peu en étranger dans leur propre pays, mais guidés l'un par l'autre, en quelque sorte, puisque, Faustin Ligné-Koula est allé dans une région qu'il ne connaît pas, et elle n'est pas rentrée dans son pays beaucoup, hein, c'était très rare. Donc, elle connaît mal, Faustin connaît un peu mieux le Congo en général, et elle connaît un peu quelque chose de cette région spécifique, le Kasaï, que Faustin ne connaissait pas du tout. Donc, ils ont été le guide l'un pour l'autre dans le pays d'origine. C'est une constellation assez intéressante. On ne parle pas, par ailleurs, on ne parle pas la même langue dans les deux régions, et c'était en même temps donc Faustin qui guidait Amandine et l'inverse. Donc voilà, elle a dansé le crump dans cette région, le Kasaï, sur des rythmes populaires de musiciens de la région. Et en même temps, en Europe, quand elle est ici, en Suisse, elle a une vraie pointure dans cette danse, le crump, qui vient des ghettos américains. Elle est championne, ou a été vice-championne, quelque chose comme ça, d'Europe. Cette association suisse et le crump est assez étonnante, n'est-ce pas? Donc, alors, on va avec eux, on va aller au Kasaï, à 1000 km à l'est de la région d'origine du chorégraphe Faustin. Et on va donc aller au Kasaï, qui est le berceau du peuple Luba, une des grandes, grandes civilisations. Leur danse et musique sont le Mutuashi, et donc cette région devrait être riche, mais en raison des minerais dans son sous-sol. Mais cette région est pauvre parce que les colons belges ont tout raflé, et ça continue. Et on parle de ça aussi avec les deux. Alors l'idée du spectacle, c'était de faire un portrait de Mamouchi. Et donc je les ai rencontrés dans la salle après le spectacle. Et bon, les techniciens mettaient parfois leur musique, pour le démontage, etc., pour se défouler. On l'entend parfois, mais ça ne nous dérange pas plus que ça. Donc, dans un instant, on va écouter Faustin Lignekula et Mamouchi.
Samu dinga na dinga, nyamundo tabi bazaba. Chapa ima ilang kokela, auti meni bopena. Samu dinga na dinga, nyamundo tabi bazaba. Chapa ima ilang kokela.
Say it one more time. Pharisee, Pharisee, my dream woman, lost your memory. Oh, freedom, that's told your picture. Sell out at night, stole on song, watching the day flow back.
the day at night.
Batangana Bankaka Zetos Africa Yeah, yeah
Kinshasa Congo Africa Yeah, yeah. Kinshasa Congo Africa
Yenda Zulu Nguaku Nachiwati Kilako Idie
Take away the diamonds and pearl yeah. And ship them around the world Take away the isles in your big boat And take the nation for a joke Left them to fight among themselves Generation come and go. You where the Congo say, "Bingi di di bongo, Congo ah." Nah. Bingi di bongo, Congo ah.
Congo Africa, Jamaica eh. Tasala tintuari, bole bantu. Congo nidia kuba mane Iyalalo Congo nidia mukumba kumba Iyalalo Congo nidia shika mane Iyalalo Congo nidia chimpa vita
Kinshasa Congo Africa yeah. Pezavela di Congo Africa yeah.
Vous êtes dans Tempête sur les planches sur Radio Libertaire avec Thomas Dambourg. Je voulais vous donner à entendre Faustin Lignecoula et Mamouchi, bon, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça ne va pas fonctionner aujourd'hui puisque le logiciel qui veut bien ouvrir l'enregistrement ne passe pas à l'antenne et celui qui pourrait passer à l'antenne ne veut pas s'ouvrir. Il y a du chaos sur l'ordinateur du studio, donc je continue à essayer encore un petit moment et si ça ne marche pas, je vais juste vous raconter quelque chose à propos de ce spectacle et de leur travail. C'est Thomas de Hambourg. On va faire encore une tentative d'écouter, d'entendre Faustin, Lignicola et Mamouchai.
Votre aventure là, voilà. Là-bas. On dit comment? On dit dans le Kasaï ou au Kaltafi?
Oui, on peut dire au Kasaï, dans le Kasaï.
Quand tu es allé là-bas la première fois?
Alors la première fois, j'y étais avec mon père.
Comment est-ce que cette région communique? Est-ce que... C'est parce que okay. Tu dis...
Donc j'y étais avec mon père comme guide.
Parce que toi,
et c'est vrai que c'était pour moi la découverte. Donc j'étais plutôt dans l'observation. Et ce que ça m'a fait, c'est que forcément que ça, c'est touchant. Mais c'est touchant un peu avec un goût amer parce qu'il y a la beauté de
une région qui est isolée, en tout cas pas plus que d'autres régions au Congo, ouais. Mais c'est toujours une question d'accès. Est-ce que c'est accessible par la route? Oui, des fois c'est compliqué. Le premier voyage que j'avais fait en 2018, j'y étais allée par la route. Donc d'abord on est arrivé dans le Grand Kasaï du côté de Mujima et puis après on est arrivé par la route. Et c'est compliqué d'y arriver par la route. Donc
au départ, on avait annoncé quelle durée de voyage?
Au départ, on nous a annoncé 8 heures de voyage, ça en a été 24.
Ah ouais. Et puis, carrément, de chez moi, à Kisangani, aujourd'hui, il faut prendre l'avion pour arriver au Kasaï. Mm-hmm. Et il n'y a pas de vol direct, donc il faut aller à Kinshasa et reprendre un deuxième vol. Ouais. Pour arriver au Kasaï, qui fait que entre les deux vols, l'aller simple va coûter autour de 400 euros.
Ouais.
Voilà. Donc, entre les deux villes, qui fait que c'est des pays. Donc, c'est des régions qui sont très éloignées les unes des autres. Parce que ce qu'on comprend aussi très vite, c'est que le réseau routier qui avait été. Et même le petit réseau ferroviaire construit par les Belges, ça n'était pas fait, c'était pour connecter les régions les unes aux autres. Ce réseau était pensé pour sortir les matières premières.
Ouais.
Et donc, toutes les routes regardent vers l'extérieur. Et fait que à partir du moment où dans une région il n'y a pas pour ce système de prédation de raison d'y aller, on oublie. Mais c'est aussi quand même une région le Kasaï est frontalière, c'est une région frontalière toi de l'Angola. Mmh. Et donc il y a il y a un peu de trafic par là, mais comme les routes sont en très mauvais état, ouais.
Et toi, tu es resté en contact, donc tu as de la famille, là.
Oui.
Tu es resté en contact.
Oui, j'ai de la famille, donc à Kananga, plus précisément à Kanyuka, et je suis resté en contact. Ben, c'est vraiment grâce à la technologie hein, qu'on peut facilement être en contact. Donc, c'est principalement des appels, des messages, de temps en temps des envois d'argent. Si on arrive des voyages, mais c'est vrai que ça a un coût d'aller au Congo et en plus de ça, d'arriver dans cette région-là. Donc finalement, c'est des voyages qu'on ne peut pas faire souvent parce qu'il faut choisir entre voyager ou envoyer de l'argent. Donc voilà, l'un dans l'autre, voilà, on fait comme on peut.
Donc c'est tes grands-parents qui sont là ?
Il y a ma grand-maman qui est là-bas avec ma tante et puis des cousins-cousines qui sont là-bas. Ouais.
Donc vous les avez rencontrés ?
Oui. Parce que quand nous nous sommes rencontrés ici, à Vidi, c'est vraiment Vincent Baudrier qui m'a parlé d'Amandine pour la première fois. Il disait, ah ouais, j'ai vu une danseuse congolaise et il faudra que vous rencontriez. J'ai dit, ok. Et on s'est rencontrés, là, on a déjeuné ensemble, on a bien discuté et tout de suite, je me disais, j'aimerais continuer ce dialogue. Et la saison dernière, j'étais beaucoup à Vidi. Donc, à chaque voyage, on essaie de se voir, de discuter. Et puis, à un moment, il y a eu cette envie de nous rencontrer dans le travail. Et dès le départ, c'était clair que ce serait plutôt elle qui porterait le projet sur le plateau, mais qu'on le créerait ensemble, qu'on l'écrirait ensemble. Et comme on ne parlait que du Congo, je me suis dit, mais pour moi, ça sera bien que l'on aille au Congo ensemble, que tu me montres ton Congo à toi. Et quand j'ai su qu'il y avait encore la grand-mère qui vivait au Kasaï, je me suis dit, déjà, je n'avais jamais été au Kasaï de ma vie. Donc, c'est une occasion de découvrir le Congo. Mais aussi, voilà, de passer du temps en famille et comment, finalement, être en famille peut devenir matière qui nourrit notre travail. Parce que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de rencontrer les gens, d'encontrer les hommes et les femmes. Chaque spectacle devient juste un prétexte pour la rencontre. Et donc, aller au Kasaï, c'était continuer ce dialogue, rencontrer la famille, mais rencontrer cette région. Parce que quand on grandit au Congo, nous vivons tous avec le mythe du Kasaï. Parce que pendant très très longtemps, c'était la région d'où sortaient tous les diamants. Tous les diamants sortaient du Kasaï. Et l'écart entre la richesse que représentent ces diamants et ce qui est le niveau de délabrement des infrastructures, ou plutôt l'absence des infrastructures, il n'y a pas d'eau, il y a d'eau courante, je veux dire. Donc, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité, mais cette région a enrichi ce pays, ou plutôt les dirigeants de ce pays, mais la région elle-même abandonnée. Avec l'insécurité alimentaire. Et donc, c'était aller à la rencontre de tout ça, mais avec Amandine comme guide. Mais Amandine qui ne connaît pas la région. Mais juste au Congo, même quand on vit en ville, on grandit avec cette idée que chez nous, c'est le village d'où sont partis nos parents, c'est le village des ancêtres. En fait, même si les parents sont nés en ville, ils vont dire, chez nous, c'est là-bas. Et donc, j'étais chez Amandine, même si ce n'est pas en chez elle, où elle a grandi, où qu'elle connaît, tu as découvert ça à presque 30 ans.
Oui, oui, c'est ça. Oui.
Et est-ce qu'entre le Kasaï et les autres régions, la Kisangali et tout ça, est-ce que ce sont des cultures différentes
Alors, en tout cas, c'est des cultures différentes, parce qu'il y a des langues différentes, donc il y a des spécificités, mais de manière générale, les peuples bantous qui sont dans l'Afrique, il y a beaucoup de points de rencontre, il y a beaucoup de similitudes dans les cultures, et quand Faustin était du coup dans le Kasaï chez nous, il avait tous les codes, quoi. Il savait comment saluer la grand-mère, il savait comment s'adresser. Enfin, il y a plein de choses qui sont similaires, donc il n'y a pas besoin de traduire, d'expliquer, fais attention là. Donc ça, c'est vrai que c'est des on va dire des cultures sœurs, quoi. Ouais. On dira ça comme ça.
Et après, là où il y a eu des écarts, c'est pour moi c'est lié notamment à l'environnement. Parce que cette région du Kasaï, c'est d'abord une région de savane. Et à Kisangani, nous sommes dans une région de forêt. Les peuples de forêt ont développé un système économique qui n'avait rien à voir avec le système économique des peuples de savane. Parce que le peuple de savane était obligé d'organiser leurs économies, notamment avec l'idée qu'on doit faire des stocks. Dans la forêt, ce n'est même pas nécessaire parce que la forêt, elle est tellement riche et que selon les saisons, on va là, on va là. Et donc, il ne s'est jamais développé une économie aussi florissante qu'il y a eu historiquement dans la région du Kasaï. Et c'est ce qui fait aussi que, alors que dans la région du Kasaï, ils ont pu développer des royaumes et des empires importants parce que à partir du moment où on doit faire des stocks et tout, il y a des ensembles plus importants qui se mettent ensemble. Dans les régions des forêts, c'était pas nécessaire. Et du coup, c'est resté des petits ensembles qui se déplaçaient parce que ils avaient tout le temps à manger. Et ils n'avaient pas besoin d'organisation spéciale. Mais nos langues, il y a plein de choses dans le Tchiluba que je ne parle pas, c'est pas ma langue, mais que je reconnais. Parce qu'il y a des similitudes avec ma propre langue. Donc, voilà, comme tu disais, c'est des cultures sœurs, quoi.
Et ça t'a fait quoi, à toi, quand tu es allé là-bas la première fois?
Alors, la première fois, j'y étais avec mon père. Donc, c'est OK avec... Ouais. OK. Donc, j'y étais avec mon père comme guide. Et c'est vrai que c'était, pour moi, la découverte. Donc, j'étais plutôt dans l'observation. Et ce que ça m'a fait, c'est que forcément que ça, c'est touchant, mais c'est touchant un peu avec un goût amer, parce qu'il y a la beauté de se reconnecter à sa famille, il y a la beauté de pouvoir voir ses paysages, de voir ce pays continent d'une autre manière, et en même temps il y a cette ville qui est laissée à l'abandon, tout date à peu près de la période coloniale, quoi. Il n'y a pas de nouveaux bâtiments. En fait, ils font avec les ruines. Et concrètement, de voir ça, ça fait mal au cœur parce qu'on se dit, mais comment ils peuvent faire avec les ruines alors que ils ont tout.
Ouais. Et le contraste avec la Suisse est encore plus accentué, quoi.
Ah oui, c'est clair que le contraste avec la Suisse, pour moi... La rencontre que j'ai... Parce qu'avant ça, j'ai beaucoup voyagé en Afrique. La rencontre avec l'Afrique, de toute façon, c'est d'oublier ce qu'on connaît ici, tous les repères qu'on a ici, de les oublier parce qu'ils ne nous servent pas là-bas. C'est-à-dire qu'on arrive comme ça sur le continent et on se rend compte qu'on doit tout apprendre à zéro. On doit même apprendre presque à marcher, à regarder, à saluer. On doit tout réapprendre. Et en même temps, c'est beau de pouvoir à nouveau refaire tous ces apprentissages. Parce qu'on arrive dans quelque chose où il faut accepter un peu la vie comme elle vient. On ne peut pas anticiper. Voilà.
Quand on arrive de Suisse, ne pas anticiper, c'est quand même un problème. C'est le seul pays où j'ai été jusqu'ici, où je sais que je peux réserver un billet de train aujourd'hui. Sachant que c'est un train qui va partir dans 3 mois, mais déjà je sais qu'il partira du quai 3, oui. De la voie 3. Comment est-ce possible? Parce qu'en France, ils affichent ça 20 minutes avant. Mais là, même 3 mois avant, on sait. Et donc ne pas pouvoir.
Oui, essaye le train en Allemagne, c'est pareil.
Voilà. Ne pas pouvoir prévoir, puis si on se rend compte qu'ils ont un autre rapport au temps, par exemple, il pleut, tout le monde va rester à l'abri et attendre et regarder, et attendre que la pluie. Ils vont pas forcer contre la nature, et donc du coup, c'est un apprentissage, se dire c'est aussi possible de vivre comme ça. D'aller avec le temps, de ne pas aller contre, de ne pas, comme on dit, eux ils ont le temps, nous on a l'heure. Donc voilà, de prendre le temps.
Justement, mais ça arrive aussi, ça existe aussi ici, hein, des différences. Moi, la programmatrice là, l'allemande, elle me demande alors qu'est-ce que vous allez faire là, Thomas, tu vas faire quoi? Je dis bon, je vais voir, hein, je vais arriver, après je vais voir s'il fait beau ou pas, et puis je vais décider. Voilà, vous êtes merveilleux, toi, tu t'aimes en français, toi. Un Allemand aurait déjà son planning. Tel jour, j'ai fait ça, tel jour, j'ai fait ça, etc. Tu as les différences aussi ici en Europe.
Mais avant. En Allemagne, maintenant, on dit que tu es devenu français, c'est ça?
Mais avant qu'on parle de Krump, alors. Donc, ces danses de là-bas, est-ce qu'elles ont joué un rôle dans ta vie?
Oui, pour moi, c'est, comme je l'énonce dans le spectacle, c'est ces fêtes de famille où, depuis tout petit, d'abord, on regarde les grands danser, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bouge, etc. Et il n'y a personne qui nous prend par la main en nous disant « faut faire comme ça, comme ça, comme ça ». C'est qu'on regarde et puis on adapte avec son corps. Et puis, il y a toujours ce cercle où, à un moment donné, on nous donne le pagne comme un espèce de relais qu'on nous passe. Et là, on est au centre du cercle, on danse. Et puis... là, il y a tout le monde qui crie, et ces encouragements, des fois il y a de l'argent, puis voilà, quand on a 10 ans, un billet de 10 francs, 10 euros, voilà, on se dit, c'est que j'ai bien fait, et ça encourage à garder la culture, et plus tard, moi, en arrivant là-bas, quand on a fait cette fête dans la cour où habite ma grand-mère, et qu'on a invité un groupe folklorique, donc Atandele, le groupe folklorique, et il y avait cette maman, je dis une maman, puisque je ne peux pas dire dame, c'est ici qu'on dit dame, une maman qui, à un moment donné, se lève, elle danse, et j'ai pu, du coup, danser avec elle. Et c'est parce que j'ai appris ça ici. Mais ça prend une autre signification quand on est dans ce cercle et qu'on danse face à une spécialiste. Mais après d'avoir les encouragements du cercle, on se dit, ok, donc j'ai bien compris. En observant, j'ai bien compris. Ouais.
Alors, vous étiez où, là? On te voit danser devant ce falaise, ce mur, là, énorme. Est-ce que c'est une sorte de carrière?
Exactement. C'est une carrière qu'on a trouvée quand on se dirigeait près de la rivière Loulois. Et puis, c'est une carrière où il y a un peu un village autour qui s'est créé. Pour pouvoir extraire des matières, pour créer des briques, des matériaux de construction de manière générale. Et donc du coup, en se baladant dans cette carrière avec un guide, on est tombé sur ces enfants qui étaient vraiment loin, vraiment cachés loin dans la carrière. Et même notre guide était surpris de les voir là, les a engueulés en disant « c'est dangereux, vous vous trouvez », etc. Et donc du coup, pour nous, c'était touchant de voir que même les enfants essayent d'amener leur pierre à l'édifice parce que il y a pas de petit travail, quoi. Tout va aider la famille.
Parce qu'il faut dire que cette carrière a été arrachée aux habitants du coin, et maintenant c'est en tout cas la concession appartient à une entreprise égyptienne, et ils ont mis un enclos en bois avec des policiers congolais qui gardent ça pour empêcher tout accès. Donc, les Congolais qui vivent là n'ont plus accès à cette carrière qui était leur source de revenus. Maintenant, ce sont les Égyptiens qui sont devenus propriétaires. Et donc, eux, ils doivent se cacher, aller à côté. Et c'est là que ça devient dangereux, parce qu'il y a des éboulements, il y a des morts assez régulièrement. Et notre guide, tout de suite, il a dit, mais si vous restez là, vous êtes si petit, s'il y a quelque chose, comment on va savoir? Personne ne peut venir jusqu'à ici, donc il faut partir, quoi.
Et les nappes phréatiques sont récupérées par Nestlé, c'est ça?
Dans cette région-là, pas encore, oui, mais Nestlé est en train d'acheter depuis, oui, sur le continent. Déjà, l'eau d'Assani, ça c'est... D'Assani, c'est pas
non,
Nestlé.
Pas Nestlé c'est...
D'Assani, c'est Coca-Cola.
Ouais, c'est... je me souviens plus du nom, mais je vois très bien.
Bon, alors on continue, Tempête sur les planches, voilà. Après ce début de l'interview qui était un peu chahuté par je ne sais pas quoi, les appareils et les... Bon, les voilà donc, Faustin Lignicula et Mamouchi qui s'appelle Dolcil Amandine Nguindou. Et comme artiste, donc Mamouchi, elle vit à Lausanne, nous étions à Lausanne, là, au Théâtre Vidi, et donc en train de parler de ce spectacle, on vous livre un peu le making-of de cette pièce. C'est un solo, et ça s'appelle Mamouchi, portrait pour Amandine. Voilà, et elle est dans ce scrum, donc, via Lausanne, et elle va nous parler de cette danse, de cette culture, le scrum. Alors, raconte-moi quelque chose sur le crump à Lausanne.
Le crump à Lausanne.
Ça existe de quelle manière? C'est déjà un petit peu surprenant.
Oui, le crump en Suisse existe depuis longtemps, depuis 2006, 2005 à peu près. Il y a un groupe fondateur, c'est les Warriors, qui était basé d'abord à Genève et à Bienne. Et puis, naturellement, Genève et Lausanne, c'est à 30 minutes, donc... quand moi j'ai appris qu'il y avait du crump en Suisse, je suis allé à Genève, j'ai appris là-bas de différents mentors, donc d'Akodak, un autre mentor à Bienne, Yarjak. Et donc la Suisse est vraiment reconnue dans le crump mondial parce que, en fait, ça a été des précurseurs dans la chorégraphie crump. Donc ils faisaient des chorégraphies de groupe à l'époque où tout le monde dansait individuellement. Donc même aux États-Unis, ils connaissent les Warriors comme étant un des groupes qui a ouvert cette voie aussi. Donc non, le crump en Suisse est bien représenté. Maintenant, on est, voilà, je parle de 2006, maintenant, on est bien, ça a bien évolué depuis. Puis à Lausanne, c'est représenté, il y a des cours de crump, il y a on appelle ça des laboratoires où on s'entraîne, des entraînements de crump, des sessions, des événements. Récemment, il y avait un événement... au centre-ville, donc c'est représenté, ouais.
Donc, et toi, tu as gagné certaines compétitions?
Oui, et en tant que crumpeuse qui est en Suisse, on a gagné un concours en équipe, donc encore avec cet héritage de la chorégraphie. Et donc, on a gagné en 2019, 2020, et l'année dernière, enceinte de 6 mois, on a gagné en Allemagne. Donc, on a gagné encore un championnat. Et,
ouais. C'était où? Ça s'appelle comment?
Ça s'appelle, ça s'appelle EBS, et c'est à Düsseldorf. Et donc, c'est le championnat, un championnat international. Il y en a un autre en France qui s'appelle Illust Battle, et qui aura lieu en mai à la Villette.
Mais Illust Battle, oui, ça vient du hip-hop, non?
Non, International Illust Battle, c'est vraiment du crump. C'est un événement 100% crump. Il y a des créations crump, il y aura des battles, il y aura même de la musique, des contests de musique crump. Donc tout ça va se passer à la Villette.
Ouais. Et Düsseldorf, c'était organisé au Tanzhaus ou...
Exactement, à la Tanzhaus, oui.
Ok, mais alors, raconte-moi un peu le crump de l'intérieur. Je veux dire, en dansant, qu'est-ce que tu as comme sensation? Qu'est-ce qui t'amène? Et mm-hmm. quel rapport est-ce que tu as à la musique? Elle joue quel rôle?
Mm-hmm. Alors, moi, c'est vrai que de manière générale, j'ai toujours abordé la danse d'un endroit un peu personnel, comme un outil pour nettoyer. Pour nettoyer, pour faire en sorte que, à la fin de la journée, je puisse un peu déposer tout ce qu'on porte, un peu du matin au soir. C'est un peu comme ça que je vois le crump. C'est-à-dire que j'aborde cette danse en me disant, ben, où est-ce que je sens, de manière générale, une tension que je peux nettoyer, d'abord en contractant et en relâchant. Parce que c'est une danse où on voit beaucoup d'explosivité, mais une explosion, c'est ça contracte et puis ça relâche. Donc d'avoir ces deux-là, et puis sinon de manière générale, ben, ça veut dire qu'il faut bien connaître son corps, il faut être à l'écoute, et puis du coup sentir cette limite entre contracter, mais en même temps pas se faire mal pour pouvoir relâcher et déposer ça.
Mais il y a la partie où tu parles de cette question, qu'est-ce que tu ramènes, et qu'est-ce que ça change, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'artiste, en tant que citoyen, etc. Et après, tu redanses et on a l'impression que tu es vraiment très, très chargé. Là. Mm-hmm. Ouais. Tu exprimes vraiment une sorte de frustration, de fureur aussi par rapport à cette situation.
Oui, ben, c'est vrai que là, je parlais du crump, ma pratique. Après, dans ce spectacle, on est en train de raconter des choses qui m'ont tourmenté. Parce que de se dire que finalement, je ne sais pas, de posséder un téléphone portable aujourd'hui, ça veut dire quelque chose. Et puis, des fois, c'est facile d'oublier cette réalité, puis se dire, ça ne veut rien dire, comme de porter des habits achetés dans certains magasins, ça veut dire quelque chose. Et puis maintenant, c'est de se dire, est-ce que cette responsabilité, on décide de l'oublier, de faire comme si il n'y a rien, ou est-ce qu'on questionne le fait que, quelque part, ça m'a hanté, ça me hante. Et donc forcément que la danse, elle est chargée de ça aussi. Et pour moi, c'est toujours de se dire, si en me questionnant, ça donne la possibilité à d'autres de se questionner, moi, c'est avec plaisir que je me questionne comme ça devant des gens.
Alors, téléphone portable, tu parles du fait de posséder un téléphone, ou tu parles de l'extraction des matières premières qui rentrent dans la production, ou tu parles des déchets qu'on balance en Afrique, là, les vieux téléphones qu'on n'utilise plus ou...
Ah non, là,
dans quel sens?
Là, je parle vraiment du coltan, qui est un minerai qu'on trouve principalement au Congo. Je crois que c'est 70% du stock du coltan qui est au Congo. Et donc forcément que c'est extrait. Et que c'est sur ça que reposent actuellement nos modes de communication, de transport, c'est sur ça que ça repose. Et donc, c'est quelque chose qu'on sait, en tout cas, que beaucoup de personnes savent, et dont on ne parle pas assez. Et pour moi, en parler, c'est juste de prendre conscience et de nous donner cette liberté de choisir en connaissance de cause. Parce que j'ai l'impression que des fois, on fait ses choix sans savoir, alors que si on avait su, peut-être qu'on aurait consommé différemment. Donc c'est vraiment juste ça.
Et donc oui, dans le crump, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qu'on recherche dans les battles, dans les compétitions? Qu'est-ce qui fait qu'on est vraiment au top? Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qu'on cherche? La compétition, c'est repose sur quelle qualité? Qu'est-ce qui est en jeu, quoi?
Oui. Alors, la compétition, c'est vrai que dès le début du crump, c'est un aspect qui s'est développé. Et en parallèle, il y a la session. Je parlerai de la session après. Mais dans la compétition, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à amener les gens dans son univers. Et c'est un peu celui qui va gagner, c'est celui qui a réussi à mieux nous faire voyager. C'est réellement ça. Donc tous les outils, tout ce qu'on développe au niveau du corps, au niveau de son identité, c'est vraiment dans le but d'aller mieux chercher les gens et de les faire voir ce qu'on voit dans notre tête, comprendre ce qui se passe dans notre corps. Donc c'est vraiment ça qu'on cherche. Donc un battle, celui qui va gagner, c'est celui qui aura réussi à amener tout le monde avec lui. C'est forcément ça. Et puis dans la session...
Il y a cette histoire d'énergie. Donc il y a une énergie au centre, il y a l'énergie du cercle. Et puis il y a ces allers-retours, il y a ces, comme on dirait, un call and response. Et la session, ce qui va faire qu'un danseur va se, à un moment donné, va nous épater dans une session, c'est un danseur qui aura réussi à faire monter l'énergie et à la faire tenir en haut pendant un moment. Donc ça veut dire que quand on dit de la faire monter l'énergie, c'est-à-dire que le cercle aussi respecte cette énergie. Et après, au bout d'un moment, quand on est arrivé au sommet, on se dit, bon, plus personne ne danse après, on rentre chez nous. Donc ça, c'est plutôt dans la session.
Mais toi, Faustin, tu es chorégraphe. Comment est-ce que toi, tu vois le crump, cette danse?
Peut-être, déjà, je l'aborde comme un danseur, moi-même. Et c'est une question d'énergie. L'énergie qui doit d'abord circuler à l'intérieur du corps et puis éventuellement être canalisée vers l'extérieur. C'est un langage que je comprends. J'ai d'autres outils. Mais tout de suite, c'est un langage que je pouvais comprendre. Et après, il y a aussi l'histoire du crump. Cette danse née au début des années 2000, après notamment les émeutes de Los Angeles, où ces jeunes des quartiers noirs, voilà, plutôt que d'aller tuer, ils ont dit, on va exprimer toute cette rage dans notre danse. Et ce cri, toi, qui est né de ce désespoir, mais ce cri qui est une manière de dire, malgré tout, on va continuer à vivre. Ça, c'est quelque chose dans lequel je me reconnais directement. Parce que voilà, toute ma danse, c'est à cet endroit-là qu'elle se situe. Comment à la fois rendre compte de ces ruines qui nous habitent, pas que les ruines dans lesquelles nous habitons, et les ruines ne sont pas qu'à l'extérieur. À un moment, c'est vraiment quelque chose qui s'est construit en nous, qui nous habite, ce désespoir qu'il y a quand on est au Congo, où tous les jeunes rêvent que d'une chose, c'est traverser la frontière et ne plus jamais revenir. Déjà avec la génération de ton père, depuis plus de presque 40 ans, ils sont en Europe, ils veulent bien rentrer, mais en même temps, ils vont se dire, ah non, ça va pas. Et donc, il y a toute cette rage-là, et comment canaliser ça? Et donc, en tant que danseur, j'ai trouvé le moyen, en tout cas, de canaliser ça. Et quand je rencontre Amandine et la pratique du crump, tout de suite, je me reconnais. Et au-delà du Congo, qui nous unit, qui nous habite, il y a aussi juste cette conscience que la danse devient une manière, voilà, de clarifier où on en est. Voilà.
Donc on est aussi un peu connecté à quelque chose qui vient d'au-dessus, des sphères un peu mystiques.
Ça, je pense que il y a un peu de ça, mais surtout, je pense qu'on est connecté à quelque chose
de l'intérieur,
comme si ça nous recentre. Donc, est-ce que se recentrer, ça veut dire être connecté à quelque chose de divin? Ça, c'est un peu chacun qui le vit à sa manière. Mais en tout cas, ça recentre. C'est ça que je disais, ça nettoie, ça recentre, ça dépose, ça ancre.
Ouais. Bon, vous écoutez Tempête sur les planches avec Thomas Dambourg. Et vous entendez aujourd'hui Faustin Lindjekula, le chorégraphe, et la danseuse crump Mamouchi. Alors ils vont venir à Paris avec ce spectacle, même avec deux spectacles. Et avant que je vous précise ça, voilà, la prochaine partie de l'entretien, c'est sur le rôle de Faustin dans le spectacle, mais aussi après sur la question, un artiste quand même, quel pouvoir est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il peut changer, son engagement, comment est-ce qu'il peut le porter, et quelle responsabilité est-ce qu'il peut prendre, quel impact est-ce qu'il peut avoir avec un spectacle. tout cas, dans un solo comme ça, toi, tu peux pas vraiment intervenir comme chorégraphe. Tu n'as pas à lui dire comment elle a dansé. Hein, c'est...
Non. Non. C'est pour ça qu'on signe à deux. Moi, ce que je peux apporter, c'est une manière de raconter. Mais on part du principe que tu sais danser. Et maintenant, comment on peut raconter avec ça?
Alors, vous êtes tous les deux auteurs de spectacles. Peut-être tu peux metteur en scène. Et est-ce que vous avez écrit le texte ensemble? Comment est-ce que vous avez fait?
Alors, le texte... À la base, c'était une volonté de Faustin. Moi, j'étais pas sûre. Et puis, le texte s'est écrit naturellement sur la base déjà d'impro. Parce qu'on s'est dit d'être dans cette matière et de pas hésiter à s'exprimer sur ce que ça nous fait. Maintenant qu'on a passé ce voyage, voilà, c'était l'été dernier. Maintenant que le voyage, il est un peu plus distant, qu'est-ce que ça nous fait que de replonger dedans? Donc, c'était vraiment des impros sur la base d'impro où, à des moments, il y a des choses qui nous paraissaient évidentes, il y a des choses qui nous paraissaient justes, il y a des choses qui nous paraissaient nécessaires à partager.
Et puis, à partir de là, j'ai mis un micro dans l'espace, mais qui était relié à une carte son, à un ordinateur, où tout ce que... le gros de ce que Amandine pouvait improviser, j'enregistrais. On réécoutait, et puis à partir de là, on a commencé à écrire. Et puis, ouais, donc c'est des allers-retours où parfois je vais dire, ah oui, si on dit plutôt comme ça, ça sera plus percutant, sera plus juste. Et voilà.
Et on a l'impression aussi que, bon, par le texte, que vous vous questionnez un peu sur. La démarche sur l'impact que vous pouvez avoir, où tu dis, bon, je n'ai que ça à vous ramener, ma danse pour vous divertir. Ceci dit, les gens qui veulent se divertir, ils ne viennent pas ici. Hein. Mais c'est quand même une question aussi, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'artiste avec un spectacle? Qu'est-ce qu'on peut faire bouger, quoi?
Oui. Je pense qu'il y a... On se sent quand même, en tout cas moi je me sens quand même pas mal impuissante quand je regarde justement les nouvelles par rapport à ce qui se passe au Congo. Là actuellement il y a eu des inondations avec des centaines et des centaines de morts. Mais c'est en fait on a l'impression qu'à chaque fois qu'on regarde les informations il y a un malheur après un autre, après un autre. Et c'est du coup on se dit mais est-ce que ce pays va se relever? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ce pays à se relever? Et c'est comme si, du coup, on se sent quelque part responsable aussi du sort de ce pays. Et pour moi, qui ai passé la plupart de ma vie en Suisse, c'est quand même quelque chose aussi qui questionne. Comment est-ce que je peux me sentir responsable d'un pays que je connais que de loin? Et je pense que c'est là où on peut relier ça à cette mémoire ancestrale qui nous rappelle quand même qu'on n'a pas été déposé là, comme ça, sans lien. Mais, j'ai l'impression que il y a ces questions, c'est pour ça que je dis que ça me hante. Il y a ces questions-là qui me traversent l'esprit. Et comme je danse toujours d'un endroit qui est personnel, ça apparaît dans mon travail. Et c'est d'abord parce que moi, je me sens responsable.
Et cette question de responsabilité est essentielle. Parce que le propre des systèmes coloniaux, c'était de nous rendre... Donc, de nous déposséder de tout sens de responsabilité, même par rapport à notre propre vie. Notre vie ne nous appartient pas. Tout est défini par quelqu'un d'autre et nous, on n'a qu'à subir. Et le résultat, c'est que aujourd'hui encore, quand il se passe quelque chose au pays, on ne va pas chercher des responsabilités. D'abord en interne, c'est toujours, c'est la faute des Européens, des Américains, c'est le Rwanda, c'est toujours la faute des autres. Bien sûr qu'ils sont là, tous les autres, Bien sûr que le Rwanda est à l'est du Congo aujourd'hui et que le Rwanda arme, forme le mouvement rebelle M23, mais ils envoient même des troupes pour les aider à ce méchant. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à ça? Ça devient une question plus importante pour moi, parce qu'en ce moment-là, on se donne le moyen d'intervenir à notre petite échelle. Donc il s'agit de voir comment. Et donc, du coup, on ne va plus que pointer du doigt. Ça ne veut pas exonérer les autres de leurs responsabilités. Non. Mais tout en disant aux autres, vous avez créé tout ce chaos, ou vous avez participé à ce chaos, c'est pas créé, vous avez participé à ça. On dit, et nous, là-dedans, nous ne sommes pas que des victimes. Et s'il y a une position que je refuse, c'est vraiment de dire que nous ne sommes pas des victimes. Et quelque part, peut-être, être debout sur un plateau de théâtre, c'est une manière de dire que nous ne sommes pas des victimes.
On termine là sur le spectacle avec Amandine, Mamouchi Portrait pour Amandine, de et avec Amandine Nguindou aka Mamouchi et Faustin Lignekula. Après, il y a l'autre spectacle, celui de Faustin, où il est sur scène lui-même, ça s'appelle My Body, My Archive. Et donc c'est un spectacle qui est fait de danse, de vidéo, de texte, de musique, live. Et là, Faustin interroge sa position, notre position de citoyen, de consommateur, etc. Et il s'interroge sur ce qui persiste, la violence coloniale dans les corps de personnes. Par exemple, personnes congolaises. Aujourd'hui, le corps d'un danseur peut exprimer tout ça. Et c'est ce qu'il fait dans son travail de recherche, de fouille sur le passé et sur ce qui forge le présent dans ce solo, ce duo avec un musicien qui s'appelle My Body, My Archive, et dont il a parlé donc la dernière partie là de cet entretien. Dis-moi un mot aussi par rapport à ton autre solo, hein, My Body, My Archive. Comment tu l'as construit? Est-ce qu'il y a un pont entre les deux?
Ça, c'est, en fait, c'est vraiment la suite d'un projet qui a commencé en 2017 à New York. J'avais été invité par le musée métropolitain pour proposer quelque chose dans l'une de leurs galeries, et j'avais juste demandé à voir toutes les pièces venant du Congo qu'ils avaient dans leur collection. Et parmi les pièces que j'ai vues là-bas, il y avait une statuette en bois avec une étiquette, on dit ethnie Lingola, qui est l'ethnie de ma mère. Donc j'ai pris des photos et j'ai voyagé jusque dans le village où mon grand-père maternel est né, où il avait passé toute sa jeunesse avant de venir en ville, et n'est jamais rentré, retourné après au village. Et à partir de là, c'est un peu toi comme ce que raconte Amandine, où on va sur la terre de ses ancêtres et on sent qu'il y a quelque chose qui nous appelle là-bas. Et depuis 2017, j'y retourne régulièrement et j'apprends beaucoup de choses sur la famille. Mais je découvre aussi beaucoup de trous dans la mémoire familiale, dans ceci que, bon, quand on me raconte une histoire de la famille, on ne cite que les hommes. On va dire, tel a été le fils de tel, fils de tel, fils de tel, fils de tel. Et je commençais à demander, mais où sont les femmes? Surtout que pour moi, en plus, c'est le clan de ma mère. Tu vois, ça m'intéresse de comprendre les autres femmes qui sont arrivées avant ma mère. Et le plus fou, c'est que même les femmes du clan ne connaissent pas ces histoires. Pourtant, c'est des personnes qui vivent au village, On pourrait être tenté de croire que parce que elles vivent au village, elles sont plus près des sources et tout. Eh bien non, cette destruction, c'est à tous les niveaux. Peut-être que la différence... Moi, quand je voyage aux États-Unis et que je rencontre des Noirs américains et qui disent « Ah oui, vous venez, vous êtes plus près de vous-même parce que vous vivez sur, sur le continent », je dis « Ben non, on est aussi perdu. La seule différence, c'est qu'on n'a pas été arraché à la terre. Mais la cassure est là aussi. » Et donc, il faut un effort pour comprendre. Et donc, quand on a discuté de ça, je sentais qu'il y avait des endroits où on se rencontrait. Et donc, là, peut-être que ce solo que tu as vu ce soir, c'est le chemin que j'ai déjà fait et qui me permet maintenant d'aller avec My Body, My Archive sur l'étape d'après, qui est de dire que bah, puisque l'histoire n'a pas retenu, est-ce qu'on peut se tourner vers les poètes pour inventer et pour combler les trous? Donc, voilà, pour moi, c'est pour ça que bah, je suis curieux de voir qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un à Chaillot, le mois prochain, peut faire le parcours et voir les deux pièces. Ouais, aller voir Amandine d'abord et puis après venir nous voir. Parce que là, pour My Body, My Archive, nous sommes deux sur scène. Je suis avec un musicien. Ouais. Un trompettiste new-yorkais et qui, du coup, quand j'ai commencé à lui parler du projet, il est parti sur un voyage personnel en pensant au trou, pour un noir américain, se dire, ben, ok, qu'est-ce que je connais de moi-même? Et lui, il a pensé surtout à l'Atlantique comme un cimetière, où ce trou où est tombée une bonne partie de son histoire et qu'il ne pourra jamais récupérer, et comment avancer avec ce qu'on n'a pas, et bien, comment inventer. Voilà.
Voilà, c'était notre notre rencontre avec Faustin Lignicola et Mamouchi dans Tempête sur les planches sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité de la Fédération anarchiste. Oui, et donc, ils viennent à Paris le mois prochain. Oui, en juin, exactement du 14 au 17 juin, ils vont jouer à Chaillot, au Théâtre National de Chaillot. Ils ont la grande chance d'être invités dans un théâtre aussi important, aussi emblématique. Faustin Lignicola était effectivement aujourd'hui un chorégraphe qui compte dans le paysage de la danse, dans le paysage artistique, pas seulement au Congo, pas seulement en France, mais ailleurs aussi, vous avez vu. Ben, il a été invité à New York aussi pour son travail. Et donc, c'était quand même intéressant de vous faire part de toutes ces interrogations qui l'animent et qui le taraudent aussi. Et voilà, cette rencontre avec la danseuse Crump de Lausanne, rencontre étonnante. Je ne sais pas quelle image vous avez de cette danse, le crump. On le connaît un peu, peut-être que vous avez vu des images, que vous avez vu quelque chose en tête de ces corps qui se crispent en quelque sorte, qui se chargent d'énergie. Entouré de beaucoup d'autres personnes, quand c'est un solo, c'est souvent un solo. Et puis, il y a le visage qui se fige, les mains, les bras, tout le corps, et puis d'un coup, ça explose. C'est une danse faite de beaucoup d'explosions, mais elle a des ressources, des origines aussi, qui vont vers, comme elle a expliqué, vers une Une épure et une purification, une purification, disons, de l'âme et du corps. Donc, quelque chose, sont ces explosions, sont des décharges qui permettent d'évacuer des énergies négatives pour trouver des énergies positives, etc. Donc, voilà. Alors, ça se passe à Chaillot. Et quand il a dit, Faustin, quand il a dit que ça serait intéressant de pouvoir voir deux spectacles à la suite, c'est effectivement le même jour et à 19h30, ils vont jouer le portrait de Mamucci. Et à 21h, c'est Faustin qui monte en scène dans My Body, My Archive. Donc voilà, ils ont beaucoup de chance d'être aujourd'hui invités dans la grande institution. Et quand même, la démarche de Faustin Lignicola est très très sincère, très profonde, et elle interroge toute l'histoire coloniale et ses répercussions sur le monde, sur les personnes qui vivent aujourd'hui, mais qui sont originaires de là-bas. Donc voilà, ça c'était cette rencontre que je voulais vous proposer. C'est au Bas-d'Hambourg sur Radio Libertaire 89.4.
Libertaire 89.4.
La radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre. Et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.
Pharisee, a dream woman, you belong to me, and my midnight fantasy, I pinned your picture, sail out of nine, it's so lonesome. Counting the days, counting the days at night. I have to say it one more time. Pharisee, Pharisee, my dream woman, lost your memory. Your picture and sell out at night, stole on song, watching the day flow back.
Thank you.
the day at night. Voilà les chansons bêtes et animalières de Monsieur Lacombe. Il y en a des rapides, des lentes, des drôles, des courtes et puis des longues. Avec quelques notes de musique, une ritournelle et un tempo. C'est parti pour une drôle de visite à tous ces joyeux animaux. Une vache, un cheval, une mite, une mouette, un dromadaire, une grenouille, un cochon, un mammouth et des souris, une fourmi, une poule, un âne, un orignal, une baleine, un chien, un pivert, un boa, une puce. Voici les chansons animalières avec jeu de mots à la combe. La première d'entre elles ne date pas d'hier et elle commence en trombe. Je suis une vache. J'ai perdu mes taches. Qui faisait mon panache. Je veux qu'on me détache. Pour acheter de la gouache. Me peindre en apache. C'est fini. Oui, c'est moi, Rocky le roquet, un vrai chien de garde aux aguets, qui aboie toute la journée. Quand je vois un enfant passer devant le petit jardinet de la maison que je dois garder. Attention, hein, chien méchant, c'est marqué. Je suis méchant et je suis l'écart, je suis Rocky le roquet, je mords les fesses et les mollets, j'aboie tout le temps, y'a que ça qui me plaît. Oui, c'est moi Rocky le roquet, un vrai chien de garde aux aguets, qui aboie toute la journée quand je vois un vélo passer devant le petit jardinet de la maison que je dois garder. Attention, chien méchant, c'est marqué. Je suis méchant et je suis l'écart, je suis Rocky le roquet, je mords les fesses et les mollets, j'aboie tout le temps, y'a que ça qui me plaît. C'est moi Rocky le roquet, un vrai chien de garde aux aguets, qui aboie toute la journée quand je vois rien du tout passer devant le petit jardinet de la maison que je dois garder. Bien méchant, c'est marqué. Je suis méchant et je suis l'égard, je suis Rocky le roquet, je mords les fesses et les mollets, j'aboie tout le temps, y'a que ça qui me plaît. Oui, c'est moi Rocky le roquet, le petit toutou à sa mémé. Oui, c'est moi Rocky le roquet, le petit toutou à sa mémé. Mémé, mémé. J'ai des grandes oreilles. Les yeux qui sommeillent. Deux pattes pas pareilles. Du poil aux orteils. Une queue qui balaye.
mais j'ai un beau nez. Nouille, 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 je suis une grenouille. Nouille, 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 je suis une grenouille et j'ai de petites pattes. Oui, les pattes, c'est comme les nouilles, c'est bon. C'est Jean-Robert le dromadaire qui roule sa bosse dans le désert. Il prend un mirage de travers, se retrouve les quatre fers en l'air, se fait une bosse supplémentaire. Quel idiot, plutôt quel chameau. Ça, c'est une chute. Quatre. Je suis la poule. Je quatre. Je quatre. En bougeant ma glotte. La moumou, la moumou, la mouette fait la mou, la moumou, la mouette. Pour la mou, la moumou, l'amourette d'un poupou, d'un pouette. Elle poupou, c'est son cri. Plein de poupou, poésie. Pour le poupou est maudit. La moumou est qui chie. Sur la moumou, la moumoute. Du pouette en déroute. Qui caca, c'est la croûte. Sur un bas bateau qui glougloute.
C'est drôle. Prout, 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 je suis un mammouth. Prout, 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 je vis de ma soute. Prout, prout, prout. Les gaz en déroute. Prout, prout, prout. Ça sent le mazout. Brout, brout, brout. Je recasse la croûte. Brout, brout, brout. Bientôt je re... Prout.
suis beau, que je suis beau, vraiment très beau. Je suis un boa. Je suis la poule. J'ai 4-4-4-4-4-4. J'ai 4-4-4-4-4-4. Quand j'ai vu le coq. Le gros scorpion pique les arpions. Dame araignée pique les mollets. Monsieur Tic Picou, c'est pratique. Et le pou pique les crânes mous. Mais Lilliput est une puce qui n'a jamais piqué personne.
Ah ben ça c'est vrai, j'ai jamais, jamais, jamais piqué personne.
Si Lilliput oublie son dard, c'est au profit de sa mémoire.
Ah oui, mais moi je me souviens de tout, hein, de tout, 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 tout.
Elle a quitté le poil doux des chiens pour celui des informaticiens. Et au pays de l'informatique, il n'y a pas un virus qui n'ait pas peur de Lilliput, car qui s'y frotte s'y pique. Qui s'y frotte s'y pique.
Lilliput, c'est une puce qui pique tous les virus.
Qui s'y
oui,
frotte,
mais moi, j'ai jamais piqué personne. Non, jamais, jamais, jamais piqué personne. Pas comme les gros scorpions, là, puis les araignées et tout ça. Non, moi, je pique personne.
Lilliput, c'est une puce qui pique.
Et les virus? Ah, les virus! Ah, mais ça, c'est pas la même chose! Ça, c'est mon boulot! Moi, je suis une puce qui pique les virus!
Qui s'y frotte, s'y pique! 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 Qui s'y frotte, s'y pique, qui s'y frotte, s'y pique, qui s'y frotte, s'y pique.
Quand la baleine s'en va nager, sa grosse bedaine touche les rochers. Les petites sirènes chatouillent ses pieds, les algues naines effleurent son nez. Et elle se marre comme une baleine, la grosse baleine, qui en a marre de se marrer sans crier gare et sans pouvoir reprendre haleine. Et quand elle voit des calamars qui la regardent se bidonner, alors vraiment ça, ça la met en pétard. Et elle chante hilar que c'est assez.
C'est assez, c'est assez, c'est assez, arrêtez de me chatouiller. C'est assez, mais arrêtez, c'est assez, c'est assez.
Tam-tam tout l'hiver.
sur un arbre tête à l'envers. Bien au chaud dans mon pull-over vert. J'attrape des tout petits vers. Des jaunes, des rouges, des bleus, des verts. C'est moi le pipi vert. Pipi, pipi vert. C'est fini.
Mythe, 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 je suis une mythe.
Mythe, je suis une mythe et j'ai une grosse voix.
C'est qui, c'est le cochon d'un. Qui de qui, d'une minette d'un. Dingue de lui, le suis jour et nuit. Pour des mimi, mimi qui l'ennuie. Lui, fun kiki, n'est bien que chez lui. Bien à l'abri des mimi de sa chérie. C'est fun kiki, le cochon d'un. C'est fun kiki, le cochon d'un. C'est fun kiki, le cochon d'un. C'est fun kiki, le cochon d'Inde. Mais dis kiki, t'es complètement dingue. Et ta chérie, elle veut faire la brinque. Elle est partie avec ses mimis. En compagnie d'un nouveau chéri. Et toi kiki, tu manges tes biscuits. Presque endormi seul au lit sans ta chérie. C'est fun kiki, le cochon d'Inde. C'est fun kiki, le cochon d'Inde. C'est fun kiki, le cochon d'Inde. C'est fun kiki, c'est le cochon dingue.
Il est mort.
Je suis la poule. Je
quand j'ai fait ma crotte.
C'est la fourmi mimi qui trottine, qui trottine. C'est la fourmi mimi qui trottine dans la cuisine. Qui trottine et qui piétine. C'est la fourmi mimi qui piétine, qui piétine. C'est la fourmi mimi qui piétine dans la farine. Qui piétine et qui clopine. C'est la fourmi mimi qui clopine, qui clopine. C'est la fourmi mimi qui clopine sur une tartine. Qui clopine et qui patine. C'est la fourmi mimi qui patine, qui patine. C'est la fourmi mimi qui patine sur une terrine. Qui patine et qui se dandine. C'est la fourmi mimi qui se dandine, qui se dandine. C'est la fourmi mimi qui se dandine sur une binguine. Qui se dandine et qui se débine. C'est la fourmi mimi qui se débine, qui se débine. C'est la fourmi mimi qui se débine jusqu'en Chine. Retrouver ses copines.
Dans la maison des souris, il y a des souris. Dans la maison des souris, il y a des souris. Le papa sourit. La maman sourit. Les enfants sourient. Et toutes les souris rient. Et toutes les souris rient.
Et voici Tagadada, je suis à cheval.
Tagadada, je suis le cheval, tagadada, et quand je dévale, tagadada, jamais ne m'emballe, tagadada, je suis le cheval.
C'est fini.
Moi, j'aime bien les animaux, les éléphants, les crapauds, les petits lapins, les castors, les papillons, les alligators. Moi, j'aime bien les animaux, les limaces et les escargots, les gros blaireaux, les écureuils, les antilopes et les chevreuils.
Thank you. fait une tagada ragon. Il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. Au pays de Grecati, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Moi j'aime mieux les glaces au chocolat poil au bras. Chez mon pâtissier, il y en avait plus, c'est vendu. C'est pourquoi je n'en ai pas pris, tant pis pour lui, et j'ai mangé pour tout dessert du camembert. Le camembert, c'est bon quand c'est bien fait. Vive l'amour à ce propos. Revenons à nos moutons. Au pays d'Agraragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. Au pays de Le Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Moi j'ai marchand de glace, c'est un très bon métier. Poil au pied, c'est beaucoup mieux que marchand de mouron. Pas d'abord bon marchand de mouron, c'est pas marrant. J'ai un parent qui en vendait pour les oiseaux, mais les oiseaux n'en achetaient pas. Ils préféraient le crottin de mouton. À ce propos, revenons à nos agneaux. Au pays d'Agraragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. Au pays de Le Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Jamais la fille ne quitta l'Aragon, non, de non, jamais le cas ne quitta la Castille. Poil aux chevilles, ils ne se sont jamais connus. La fille n'a eu si bien qu'ils n'ont pas eu d'enfant. La fille n'a avoué qu'ils n'ont vraiment pas eu de veine. J'ai des veines à propos de veine, laine, revenons à nos moutons. Au pays d'Agraragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. Au pays de Le Castille,